Dolphy fut affecté à l'armée de Walter avec le grade de capitaine. Et puis les deux formations se séparèrent, chacune allant préparer en secret ses propres plans de bataille. Pour la première fois, Dolphy se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité. Il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte deux bambins à l'air sournois, armés de frondes, et ils l'expédièrent en tête de l'armée avec l'ordre de sonder le passage. Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse, d'une façon presque excessive. Alors Dolphy se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente raide. Des deux côtés, les rives herbeuses avec leurs buissons. Il était clair que les ennemis, commandés par Max, avaient dû tendre une embuscade en se cachant derrière les arbres. Mais on n'apercevait rien de suspect. Hey, capitaine Dolphy, pars immédiatement à l'attaque. Les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y tenons leur assaut. Mais toi, cours. Cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais. Dolphy se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il. « Allons, capitaine, à l'attaque !» intima le général. Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolphy, qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire. « À l'attaque, les enfants !» cria-t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales. Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment, un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup, il sentit son pied retenu. À 10 centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle. Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever, mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétries avec de l'eau. Un de ses projectiles le frappa en plein sur l'oreille, le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d'armes. Tiens, attrape, capitaine Laitue. Enfin, il sentit que les autres s'enfuyaient. Le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés, il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon. Il ne pouvait plus servir à rien. Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couvert de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée. « Mon Dieu ! Dolphy, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait, mais ce qu'il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère. Quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin? Pourquoi Dolphy restait-il si rachitique? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi est-il si peu sympathique aux autres? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez? Elle essaya d'imaginer son fils dans 15 ans, 20 ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie ou donnant le bras à une superbe jeune fille ou patron d'une belle boutique ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis, un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie. Oh, le pauvre petit ! S'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Madame Clara. Et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolphy. Le garçon leva les yeux, reconnaissant. Il essaya de sourire et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toujours l'amère solitude d'une créature fragile, innocente, humiliée, sans défense, le désir désespéré d'un peu de consolation, un sentiment pur, douloureux, et très beau qu'il était impossible de définir. Pendant un instant, et ce fut la dernière fois, il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux, qui ne comprenait pas et demandait au monde environnant un peu de bonté. Mais ce ne fut qu'un instant. « Allons, Dolphy, viens te changer, fit la mère en colère, et elle le traîna énergiquement à la maison. Alors le bambin se remit à sangloter à cœur fendre. Son visage devint subitement laid. Un rictus dur lui plissa la bouche. Ah, ces enfants! Quelles histoires ils font pour un rien! S'exclama l'autre dame agacée en les quittant. Allons, au revoir, Madame Hitler.